quatre noix.
Mesdames et messieurs, voici François,
Jimmy,
Manu,
Michel,
Ah, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne m'a donné à vous.
Si j'avais les beaux souliers que ma mignonne, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne m'a donné.
Les souliers du vieux poirier, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours,
mes souliers sont rouges. Ma mignonne, ma mignonne.
Introduction un peu longue, mais comme Alain n'avait pas l'air de comprendre encore la référence, il fallait que j'insiste.
J'ai compris.
Voilà, et voilà, tu savais bien que j'allais forcément te mettre quelque chose dans le thème du jour.
Je ne savais rien, je ne connais pas ce monsieur, je ne fais que là passer par hasard.
Eh bien, ce groupe t'appelle Mes souliers sont rouges.
Ah bah c'est bizarre.
Hein, et voilà.
Je ne vois pas le rapport.
Eh bien, tu le verras forcément avant la fin de cette chronique, comme tous nos auditeurs qui se posent encore des questions.
Ah bah, ils ont bien raison.
Voilà. Et donc, nous arrivons cette semaine avec une nouvelle revue de presse manga avec nos camarades du Bazar du Bizarre, où tu nous as sélectionné 4 titres. Et alors, par quoi as-tu envie de commencer, mon petit Alain ?
Eh bien, je vais commencer, mon petit Tony, par Love Baka de Chouchouchou Sakolai. Et donc, du coup, c'est un manga qui va vous plonger dans le milieu du manga, hein, tout simplement, puisque on suit les aventures d'un jeune homme qui se trouve responsable d'une nouvelle auteure qui fait que du shoujo manga, hein. C'est effectivement tous ces mangas à destination de jeunes filles ou d'un public féminin. Et donc du coup, il va se retrouver à coacher Suzu Sakura, donc du coup, qui est une jeune auteur qui débarque. Et donc du coup, cet homme qui s'appelle Osamu Hasegawa va se retrouver confronté à une jeune créatrice complètement cinglée, instable, en tout cas qui passe d'un état mental d'excitation à le désœuvrement le plus complet. Enfin bref, c'est très compliqué d'être du coup dans le... de s'occuper de cette jeune Suzu Sakura qui, bien qu'elle ait a priori du talent, n'arrive pas à canaliser son énergie créatrice, en tout cas en direction du succès commercial. Voilà. Et à l'intérieur, donc tout au long de ce premier tome, on va donc rencontrer, par l'intermédiaire de cette jeune fille, hein, Suzu Sakura, tous les postes et tous les gens qui gravitent autour d'un auteur manga. Voilà, dans la vie de tous les jours. Et du coup, on va voir que le mangaka, hein, quand vous êtes dessinateur de manga au Japon et que vous avez un peu de succès, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez plein de gens autour de vous, et donc où les différents chapitres sont découpés en plusieurs scènes, hein, où vous voyez donc Suzu Sakura interagir avec ces personnages-là, surtout souvent sur un mode drôle, décalé, voire un humour un peu hystérique.
Voilà. Donc juste la traduction du titre quand même.
Alors, Love Baka, ça doit être l'imbécile de l'amour.
Voilà,
ou l'amour imbécile,
voilà, un truc comme ça. Et effectivement, on peut dire que cette mangaka est un peu...
Voilà, donc Suzu Sakura.
Voilà. Alors, il y a une part biographique qui est assez étonnante dans ce manga. Parce que du coup, l'auteur ne se met pas du tout en valeur dans le récit.
Je dirais qu'elle a soit un très long recul par rapport à elle-même, soit pas une très bonne opinion d'elle-même.
Voilà. Et c'en est assez même déstabilisant parce que finalement, on a l'impression qu'on s'attache à tout le monde dans ce manga, sauf à elle. Et ça, c'est assez problématique quand même.
Donc, du coup, c'est vrai qu'elle est un peu intense. Mais c'est une femme amoureuse aussi.
Ouais, enfin amoureuse et qui t'explique bien qu'elle n'a jamais été vraiment et qu'elle n'a jamais été avec quelqu'un.
Voilà, mais ça ne veut rien dire. En même temps, tout d'un coup, elle est entourée que de beaux gosses. Hein, ouais. Effectivement, puisque alors déjà donc le fameux Osamu Azewara est quand même un peu mignon quand même. Hein, voilà. Hein, voilà.
Et puis il a travaillé dans d'autres types de mangas avant de se retrouver à faire fubler de ce attention, nouveau poste.
Attention. Oui, effectivement, lui donc Osamu vient du shojo, enfin du shonen pur et dur. Voilà. Et en fait Osamu donc qui va déjà gérer cette jeune fille pour le moins.
Compliqué.
Va ramener aussi toutes les personnes en fait qu'il suit depuis qu'il est devenu éditeur, parce que lui au départ il est assistant éditeur et il se retrouve sur un poste de shoujo parce que il a dit ses quatre vérités à son patron et que du coup ça s'est pas bien passé. Voilà, donc il n'était pas destiné au départ pour être là. Et donc du coup, il a autour de lui un certain nombre de personnes qui gravitent, qui sont très bons dans leur discipline. Donc on a un in-betweener, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour faire les finitions. On a un designer de magazine, enfin voilà. Et tous sont beaux gosses.
Voilà. Alors quand même.
Et du coup, effectivement, la pauvre Suzu, elle a du mal à résister quand même.
Voilà. Donc ça s'explique un peu aussi par la carrière précédente de l'auteur, l'auteureux, hein, on va le redire comme ça, qui avant de sombrer dans cette dans le shoujo faisait du yaoi. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que le yaoi, Toto?
Alors c'est également de la littérature pour filles au Japon, mais qui les persuade que de toute façon, si elles sont toutes vieilles filles, c'est juste parce que les mecs préfèrent les mecs plutôt que de sortir avec elles. Et ce qui n'est pas totalement faux, mais qui n'est pas non plus l'explication principale.
Voilà, plutôt que dans le yaoi, il y a très peu de personnages féminins quand même.
Voilà.
Ouais.
Et visiblement, elle dessine quand même nettement mieux les personnages masculins.
Bah, on sent qu'elle aime bien. Hein.
Voilà. Puis on sent que volontairement, elle se discrédite tellement elle-même qu'elle se dessine volontairement en dessous de ce qu'elle pourrait faire.
Bah, c'est assez étonnant puisque donc on est dans un récit, comme je l'ai dit, hein, il y a plusieurs scènes avec des personnages différents à chaque fois, avec toujours Suzu comme intermédiaire. Et on s'aperçoit quand même que selon en fait, les expressions qu'elle veut exprimer ou les situations où elle se trouve, le personnage change de graphique.
Bah ouais, parce que.
Et en même temps, on est en même temps dans le plein code manga, on se dit, mais c'est une auteure qui sait quand même les codes graphiques du manga.
Oui, mais elle les applique que sur son personnage à elle.
Voilà.
Alors que les autres, ils restent toujours stoïques et beaux gosses, alors qu'elle est con comme la lune. Et voilà, et elle a des étoiles à la place des yeux, elle saute dans tous les sens.
Voilà, elle est un peu excessive.
Elle est crochasse.
Non, elle est excessive. Voilà, elle est toujours pleine de bonne volonté. Et effectivement, on retrouve par l'intermédiaire de ce personnage pas mal d'expressions. Alors, moi, j'ai pas assez de références, hein, du coup, mais il me semble quand même que dans certains dessins de personnages, les Japonais qui le lisent doivent tout de suite voir des relations avec d'autres mangas super connus.
Voilà, ouais,
y a des traits, on se dit, tiens, c'est quand même très spécifique comme trait.
Il y a des moments où elle change tellement de style qu'il y a forcément une référence, que le style est tellement différent de ce qu'elle a fait ailleurs qu'il y a forcément une raison.
Voilà, et donc nous, on peut pas vraiment le saisir. Alors, toujours est-il que, effectivement, donc, c'est une histoire d'amour pour l'instant non partagée. Hein, donc,
alors, le problème, c'est qu'elle est amoureuse de tous les mecs qui lui tournent autour.
Voilà, mais en tout cas, ils sont tous beaux gosses.
Oui.
C'est pour ça aussi. C'est aussi une approche.
Tu crois que dans le dernier tome, il y a un boukake ? Non.
Il y a un bouquin qui est fait ? Non.
Oui, c'est le concept de la série.
Voilà. Donc, on suit quand même le parcours de cette jeune fille dans le monde du manga, du shoujo manga. On explique un peu comment ça se passe, même si on sent que ce n'est pas la focale en fait, de l'histoire. Donc, pour les gens qui ne sont pas encore prêts à des séries comme Bakuman, par exemple, où là, on est vraiment dans l'industrie, c'est une première approche qui semble assez intéressante, avec effectivement toutes les équipe qui tourne autour des auteurs manga qui est aussi présent. Donc voilà, vous pouvez apprendre quand même pas mal de choses. Là, le problème, c'est que peut-être il y a un manque de caractérisation. Enfin, l'héroïne est caractérisée, mais on a du mal à sympathiser avec elle.
Ah, complètement.
Voilà.
Et c'est marrant parce qu'en plus, quand on regarde comment. Même dans le nom des chapitres, alors que c'est elle, enfin, ça tourne autour d'elle et on. Et on voit bien qu'à chaque fois, elle est écrasée par la présence d'un nouveau personnage et qu'on oublie qu'elle est là. Enfin,
disons qu'il y a très peu de choses qui se développent dans son parcours personnel. C'est plutôt focalisé sur la personne qui arrive.
Voilà, parce qu'en même temps, on voit bien qu'elle est. Elle n'a pas de vie. Enfin, elle ne vit que pour dessiner et que la seule chose qu'elle sait faire, c'est de comment. c'est de compenser et d'essayer d'attirer le regard des autres et qu'elle lui arrive pas spécialement, même s'il y a des fois où elle essaye de s'habiller correctement et qu'elle arrive avec 2 heures de retard parce qu'elle a voulu mettre autre chose qu'un survêtement. Mais voilà, mais on n'arrive pas ni à compatir ni à s'attendrir sur elle. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'est le, elle est le personnage principal, le personnage central, et à la fois le personnage le moins intéressant de la série. Et ça, c'est quand même assez gênant.
Voilà, donc c'était donc Love Baka de Sakurai à 7,65€ qui sort donc du coup chez Kurokawa.
Donc voilà, série qu'on a terminée en 3 tomes, dont le premier vient de sortir. On passe sur un autre thème totalement différent.
Tout à fait Thierry, enfin Tony, pardon. Donc je vais vous parler de Château Narumi de Tomomi Sato, qui sort donc chez Komiku, encore l'éditeur publie des trucs vraiment sympas quand même. Donc qui est à 8,50€. Donc album que j'avais bien aimé moi, mais mes deux collègues m'ont sèchement botté en touche en m'expliquant que je suis une merde.
Ah non,
c'est pas grave.
Je n'ai pas dit ça.
Voilà. Bref, je vais commencer. Alors, et après, je les laisserai parler. Alors, Château Narumi parle du parcours d'une jeune fille qui s'appelle Mako. Alors, jeune fille, pas tant que ça, hein, donc, parce qu'elle a quand même 23 ans, voilà. Et suite à la mort de son père, enfin de ses parents, père qui lui a enseigné l'amour du vin et de la gastronomie française, merci papa, voilà, elle se retrouve à la tête d'une sorte d'empire de négociation de vin. En tout cas, voilà. Donc, elle se retrouve avec des responsabilités qu'elle, dont elle ne voulait pas du tout, et encore un peu sous le coup, je dirais, du décès de ses parents, qui est totalement inattendu, enfin, qu'elle aimait beaucoup, enfin bref. Sur ce coup, elle décide de repartir un peu sur les endroits qu'elle avait pu visiter avec son père, et elle se retrouve, donc ça se passe au Japon, hein, dans un coin du Japon, où son père avait planté des vignes il y a cela très longtemps. Et tandis qu'elle se promène, elle apprend donc de la bouche effectivement des gens qui s'occupent de ce château que la société dont elle a hérité va faire disparaître ce vignoble qui a beaucoup je dirais de qui a beaucoup d'historique pour elle. Enfin, voilà, c'est quelque chose auquel elle tient beaucoup.
Ben c'est son père qui l'a installé. Donc à partir de là, c'est le seul souvenir qui est un peu tangible qui lui reste et qu'elle va tout faire pour le sauver, même en acceptant des conditions, se mettant une pression monumentale.
Voilà, donc du coup, décidant de sauver cette partie de son passé qui existe encore, qui la relie à ses parents, elle va donc défier, en gros, le nouveau directeur de cette structure, président de négociant, et elle va mettre en jeu sa crédibilité, sa richesse, ses parts dans la société contre, je dirais, la survie de ce château, et ils se donnent tous l'un à l'autre un an pour faire de ce château un succès. Hein, une grande marque, quelque chose de reconnaissable. Donc,
son père n'a pas réussi à faire depuis 20 ans.
Voilà. Oui, mais parce qu'il fallait que la vigne vieillisse et mûrisse. Voilà. Et du coup, donc, elle va se lancer donc, dans un truc qu'elle ne connaît pas du tout. Hein, puisque donc,
elle était censée commencer des études à l'automne. En France pour travailler dans le vin.
Voilà. Et du coup, alors ce qui la sauve, c'est un peu là, une sorte de nez absolu qui peut lui permettre de réussir ce pari complètement fou, de faire d'un château inconnu, un cépage qui gagne plusieurs prix dans l'année et qui soit reconnu. Alors, voilà. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de cette histoire, tandis que effectivement le président de cette maison de vin de négociation fait tout pour qu'elle échoue. Mm-hmm. Voilà. Et donc du coup c'est une plongée dans le vin du point de vue des Japonais.
Voilà. Alors on va commencer par les points positifs.
Merci.
C'est très bien dessiné.
Oui, c'est sympa. Faut le reconnaître.
Mais... Techniquement, c'est très bien écrit, c'est-à-dire que on arrive sur des personnages, sur la trame de narration.
Caractérisation.
Voilà. Caractérisation. On est soit sur des personnages qui sont un peu superficiels, notamment pour les viticulteurs qu'on a.
Et c'est des viticulteurs.
Voilà, ça veut dire quoi?
Oh, rien.
Il y a certains qui plantent, il y a des paysans qui plantent même pas du vin dans leur truc.
Voilà. Soit.
C'est la sourasse, quoi.
Bah, hein? Si, ils font du raisin de table, ce qui est quand même vachement meilleur que l'espèce de truc qui est acide et qui est pas bon à manger. C'est pas ça la question.
Tu as raison, c'est pas ça.
Je m'en fous, moi j'ai une glace blindée entre lui et moi. Non. En fait, les personnages.
Porte, là.
Les personnages sont soit caricaturaux, parce que. Le grand vilain qui lui met un marché impossible où la pauvre fille elle va se faire rétamer, il va hériter de sa fortune, ça tient pas debout. Voilà, techniquement, on sent que c'est quelque chose qui est maîtrisé, mais ça ressemble à quelqu'un qui sait produire du manga et à qui on a demandé un travail de commande. Parce que l'inspiration du vin, on voit bien qu'ils se sont documentés, mais que c'est pas leur culture de base.
En même temps, même nous. Enfin...
Voilà. Non mais oui, mais en même temps, après une explication aux deux vraiment travaillée, on nous explique la recette du vin chaud et de la sangria, on est un peu sorti du concept. Le personnage qui est vigneron dedans, il a quand même commencé par faire des études d'œnologie pour se retrouver être à la production dans un vignoble du Japon. Il n'y a pas une logique dans le parcours.
Ah bah si, les Japonais.
Oui, voilà. Mais...
Et surtout,
les Japonais consomment plus de vin qu'ils n'en produisent. C'est-à-dire qu'il y a sûrement plus de boulot au Japon pour être œnologue que pour être vigneron. Donc,
c'est vrai.
Voilà,
c'est, vrai.
C'est, fait, c'est sur cet aspect-là que
ouais,
ça
les deux peuvent les deux peuvent aussi se se rejoindre. Hein.
Alors, a priori,
oui, bien sûr.
Après, donc ce personnage est là aussi puisque en fait
qu'il est love interest et que forcément à la fin du tome 2 il va coucher avec l'héroïne.
Parce qu'en fait il faut quelqu'un qui explique la technique quoi.
Oui.
Ouais. Bon, concrètement il sert à ça.
Oui, mais c'est peut-être là que le bas blesse.
C'est trop technique. C'est-à-dire que, évidemment, son truc est maîtrisé, qu'il sait comment arriver à développer ce qu'il veut. Mais alors, soit effectivement, les deux tomes étaient trop courts pour faire ce qu'il voulait. Il a été obligé de revenir sur quelque chose qui était complètement aux bases parce qu'il n'avait pas le temps de développer. Soit effectivement, il y avait quelque chose. Mais il n'y a pas non plus un nombre de personnages importants dedans. Et on sent que. C'est un peu rapidement fait. La manière d'éluder le fait de dire qu'elle n'avait pas de famille, que toute sa famille ne s'intéresse pas à elle, pour.
Oui, bon, ça, on est un peu dans les clichés.
Ah ouais, on est dans les clichés de l'orpheline, ça, on
oui,
est à fond.
Non, mais le truc qui m'a. Effectivement, j'ai un petit peu regretté, mais c'est pas c'est une lecture qui est agréable. Mais à partir de là, effectivement, sur les techniques au niveau de la viticulture, lorsqu'on commence à expliquer, il y a quelques pages, je vous explique, par exemple, ils ne vont pas assez loin, ou alors soit ils vont trop loin dans le degré de détail, mais sans donner les clés pour vraiment tout comprendre, ou alors ils font des raccourcis qui sont un petit peu
rudes.
Un peu rudes.
Ce n'est pas un manga de vulgarisation, vous n'apprendrez pas effectivement par ce manga.
Oui, mais c'est un petit peu dommage, par exemple, comme par rapport aux Gouttes de Dieu, où vous arrivez quand même à instiller pas mal d'informations d'une façon qui était beaucoup plus logique. Là, il y a des moments où on nous dit, voilà, la taille de la vigne est super importante. Il y a deux techniques de taille, ok, mais pourquoi? Enfin, à partir de là, pourquoi? Mais surtout, après, on nous dit, voilà, il y a une taille haute, taille basse. Après, on nous montre juste... Un petit croquis qui dit que voilà, taille haute, ça finit, donne ça, la taille basse, ça donne ça. Oui, seul problème, c'est que la taille est quand même un des éléments, enfin, une des étapes les plus importantes en termes de production dans la production de vin.
Parce que avant de savoir quelle quantité de sucre peut-être que Laurent ajoute.
Toi, tu vas rentrer en pince, hein. Je te le dis tout de suite, hein. T'as pas besoin de rajouter du sel, t'as pas besoin de rajouter de colorant,
y a pas
de
besoin,
sucre,
y a pas besoin de
caramel ou autre. Non.
Bon, mais ça a fait rire Alain.
Je sens qu'on va se fâcher.
C'est non, pas, mais c'est non, pas, le truc, effectivement, il y a des moments, c'est assez intéressant parce qu'ils essayent de mettre le doigt sur des phases importantes en matière de production et en disant qu'effectivement, c'est quelquefois aussi la somme de petits détails, de petites choses, d'attention. Tout au long de l'année, qui vont permettre d'arriver à un fruit magnifique et donc un vin magnifique. Et après, bon, même si... Mais on ne fait qu'effleurer. Alors, on, voilà, ça donne une impression de vernis. Et que, juste sur une page, une ou deux pages, en indiquant, voilà, comment on fait une taille, pourquoi on choisit plutôt un bourgeon par rapport à l'autre. Mais effectivement, ça aurait peut-être été ou un bois par rapport à l'autre. Pourquoi ça aurait pu donner, ça favoriser certains bourgeons, qu'ils étaient mieux exposés à l'autre. Ben, on aurait peut-être aussi plus approché de la réalité du métier du vigneron. Donc là, c'est un petit peu dommage. Il y a un côté, on veut donner un vernis, de faire quelque chose, de dire que c'est sérieux, mais finalement, on ne va pas assez loin.
Ou alors, on est d'accord.
Voilà, c'est un petit peu
moi. Moi, j'aime bien. Bon.
Après, c'est une lecture qui est sympa. Le personnage principal est quand même a du charisme, du chien.
Elle en veut.
Bon, voilà, je lirai quand même le deuxième tome, mais j'espère qu'ils seront un petit peu plus pressants.
Voilà.
Et j'espère quand même qu'ils iront un petit peu plus loin sur la question de la vinification et des fermentations, même si je crains que ça ne soit pas forcément le cas.
Bah, il y aura effectivement donc deux tomes. C'est une série qui sort chez Komiku à 8,50 € pièce. Donc voilà, à suivre pour voir la suite.
Mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes amours.
Mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes amours.
Oh, si j'avais les belles jarretières que ma mignonne, si j'avais les belles jarretières que ma mignonne m'a donné.
Si j'avais les belles jarretières que ma mignonne, si j'avais les belles jarretières que ma mignonne m'a donné.
Les jarretières d'Yves Giguère, les chaussons d'Yves Gagnon, puis les souliers d'Yves.
Nous revoilà pour... Oula, est-ce qu'on m'entend? Oui.
Oui, je t'entends tout à fait.
Ah, c'est moi qui m'entendais plus du coup.
Bah écoute, ça doit changer.
Non, c'est la question, n'est pas à savoir si je m'entends, pardon, mais si je m'écoute. Voilà, c'est une autre question. Donc, toi, mon petit Alain, est-ce que ta mignonne t'a donné des souliers rouges ou...
Est-ce que... eh bien, je vais pouvoir parler donc d'un nouveau manga, hein, du troisième manga de notre sélection, Le Chant des Souliers Rouges. Voilà.
Comme quoi, le destin fait bien les choses.
C'est quand même assez étonnant, hein, le fait qu'on ait une musique qui corresponde au titre de ce manga. Donc, de Mizu Sahara, donc qui sort chez Kaize Seinen. Alors effectivement, nous en discussions un peu hors antenne avec l'ami Tony. S'il y avait un manga dont le pitch était, je dirais, le plus...
voué à l'échec.
Voué à l'échec, en tout cas le plus inattendu, le plus dangereux, voilà, le plus fragile, je dirais.
C'était celui-là. Hein.
C'était celui-là, effectivement. Alors, qui nous raconte... Alors, je fais simple, hein, parce qu'en fait, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Donc, ça se passe au Japon, hein, de nos jours. Et vous avez donc l'histoire de Kimitaka, qui est un jeune homme qui se destinait à être footballeur. Malheureusement, il n'est pas assez grand. Hein. Enfin, footballeur, excusez-moi.
Basketteur.
Ce n'est pas tout à la même chose. Et donc, du coup, il se destinait à être basketteur. Il se trouve que voilà, la nature ne l'a pas favorisé. Hein. Il n'est pas assez grand. Et donc, du coup, il se retrouve, suite à une confrontation avec un joueur un peu plus doué de son équipe, il se retrouve à complètement dégoûté, à vouloir jeter ses tennis de basket. Et alors qu'il s'apprête à le faire, il s'aperçoit, donc il est au bord d'une rivière, hein, en train de balancer ses chaussures, et il s'aperçoit qu'effectivement il est en même temps qu'une autre jeune fille qui elle est plutôt grande, et qui s'apprête elle à jeter des chaussures donc de flamenco. Voilà. Et les deux chaussures sont rouges.
Avec un éclair jaune.
Avec un éclair jaune, voilà. Et du coup... voilà, exactement. Et donc du coup, ils vont discuter. Et en fait, donc lui, il va dire à cette jeune fille qu'elle a la taille idéale pour faire du basket.
Elle a la même pointure que lui.
Elle a la même pointure que lui. Tandis qu'elle va lui dire qu'en fait, il est parfait pour faire du flamenco. Voilà, en tout cas pour apprendre à faire du flamenco. Donc ils se séparent, rien ne se passe à ce moment-là. Et ce n'est que des années plus tard que Kimitaka s'aperçoit que la jeune fille a suivi ses conseils, qu'elle est devenue joueuse de basket. Ça n'a pas été facile, mais qu'en fait, effectivement, elle a trouvé une passion dans laquelle se développer, à laquelle elle y croit. Voilà. Et lui, de ce point de vue-là, après un moment d'attente quand même, hein, parce que ça met... Alors, voilà, va décider effectivement d'essayer de rentrer dans un dans un club de flamenco, parce que si elle a pu changer de retrouver une passion, pourquoi pas lui? Voilà. Alors c'est vraiment très très simple parce qu'en fait il se passe plein d'autres choses dans cette histoire. Kimitaka n'est pas forcément le point focal de l'histoire. Il a plein de personnages qui tournent autour de lui, qui ont chacun vécu leurs drames, leurs problèmes. Enfin, c'est vraiment du morceau de vie. Et justement ce personnage donc de Kimitaka qui va se diriger vers le flamenco et qui en fait on le sait puisque c'est le titre hein, de ce manga. La façon dont l'auteur met en place le processus mental dans lequel le personnage va se décider finalement d'y aller est assez inattendu. C'est un manga qui, contrairement à d'autres, prend son temps pour mettre les éléments en place, mais on sent bien qu'il a besoin de temps pour mettre les choses en place. Voilà, on n'est pas dans le, je dirais, dans une sorte de manga où du jour au lendemain, le héros décide que oui, effectivement, il est pour le flamenco, il va y aller, il va devenir champion. On sent que ça va être vachement plus compliqué que ça. Oui.
C'est plus réaliste.
Voilà, il y a une structure narrative qui est vachement intéressante. Alors, l'histoire se passe sur 4-5 ans, enfin, dans ce premier tome. Il y a le temps, en fait.
Voilà. Et il y a combien de temps? C'est une série qui paraît toujours au Japon?
Alors, non, elle est terminée en 6 tomes, je crois.
D'accord.
Voilà. Après, donc, moi, ce qui m'a impressionné dans cette série, c'est quand même, effectivement, qu'au départ. Alors, même nous, quand on fait un résumé, on a l'impression d'être brouillon. En fait, c'est très lisible, très compréhensible. Et on a des personnages qui sont vraiment très bien caractérisés. Et ça, c'est assez étonnant de voir quelque chose d'aussi maîtrisé dans la caractérisation avec autant de personnages. Même le personnage de son grand-père, finalement, est très compréhensible dans l'histoire.
Et ils participent tous, en fait, à la vie du père.
Ils participent tous, voilà. Et il y a vraiment quelque chose là-dessus où, au-delà de l'histoire, on a vraiment quelque chose sur les personnages. On sent bien, par exemple, cette jeune fille qui le croise,
Takara, la jeune fille.
Leurs histoires se commencent en parallèle. Ils ne se parlent pas vraiment, à part sur leur première rencontre. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose.
Il y a un effet miroir. En fait.
Et qui fait qu'ils vont finir par se retrouver à un moment ou à un autre. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont présentés.
La sœur est pas mal aussi.
La petite sœur, voilà.
Mais ils sont tous bien.
Il y a des drames, effectivement, par rapport à leur vie sociale à tous les deux. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. On a rarement une caractérisation aussi poussée sur un premier tome.
Voilà, surtout que à la base, hein, il s'agit d'un manga. Enfin, on est sur du manga de sport, concrètement. Enfin, elle avec ce basket et lui avec le flamenco. On se dit tiens, on va retomber sur des structures éprouvées. Alors bon, le flamenco, c'est quand même pas souvent qu'on le voit. Mais bon,
on sent que ça va devenir beaucoup plus important.
Voilà,
sur
le principe, c'est un sport comme un autre. Hein, et pourtant. On sent bien qu'on se préoccupe plus des personnages que de la pratique sportive.
Voilà.
Et c'est ça qui le rend intéressant, en fait.
Et puis bon, il y a aussi toutes ces réticences du personnage qui, en plus, bon, a quand même des chaussures de femme pour l'inspirer à faire du flamenco. Et voilà. Et on sent bien qu'il y a aussi cette image de...
C'est pas un sport d'homme.
C'est pas un sport d'homme, voilà. Qui va jouer, effectivement, par rapport à ça. À voir effectivement sur les tomes suivants, mais c'est vraiment très prometteur. Voilà, c'est assez étonnant et on a vraiment envie de lire la suite.
Bah, ça fait quand même un moment que je ne vous ai pas vu aussi enthousiaste sur un manga.
Oh, déjà d'accord, surtout.
Oui, mais déjà même
oui, non, c'est vrai que. Narrativement parlant, la façon dont il fait l'histoire est super intéressante.
Voilà.
Il y a quelque chose, je dis, ah ouais, quand même. Les histoires n'ont pas besoin d'être compliquées si elles sont bien faites.
Ouais. Elle a déjà fait quelques. Enfin, elle a déjà fait d'autres choses.
Alors, elle a fait une série précédente qui est parue en France qui s'appelait My Girl.
Voilà, qui a été arrêtée avant la fin. Qui s'est arrêté au tome 5. Et puis, il y a eu un one-shot avant, mais c'est My Girl qui a été le titre principal. Voilà.
Mais encore un inconnu. Voilà, une inconnue. Voilà.
Mais bon, du coup, c'est Kazé qui ressort. Ce titre, comme pour les deux précédents, voilà.
Et en plus, qu'il sort en seinen, c'est assez étrange, en fait.
Ben, ouais, c'est... Après, encore une fois, on est à la croisée de tous les genres et on sent bien que ça peut amener à tout et à n'importe quoi. Enfin, on est sur quelque chose qui est...
On peut parler aussi quand même du dessin.
Qui est magnifique.
Très particulier quand même. On n'est pas sur du trait rond, alors c'est peut-être pour ça que c'est pas en shonen et autres. On est sur un trait qui est extrêmement découpé, qui se rapproche peut-être, alors pour ceux qui connaissent, d'un dessin un peu à la Keitume, avec effectivement des personnages qui sont pas beaux en fait. Ils ont des traits assez allongés, c'est pas les premiers de la classe. Ils se coiffent pas bien, enfin voilà, ils sont pas. Et du coup, c'est un peu. Alors par le trait, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont un peu à part de la société. Ils sont pas dans le moule en fait. Ils sont pas dans le moule, ils sont même dans le bas du moule, puisqu'ils sont pris à partie par les gens normaux. Et on a vraiment l'impression qu'ils vivent à la bordure en fait des cercles scolaires, des cercles de professionnels. Voilà, c'est vraiment. C'est intéressant comme style.
Avec le tour de force, quand même, parce que quand on fait ce genre de personnages, en général, soit ils paraissent fades, soit on les traite sur le ton de l'humour et ça devient potache. Et là, on échappe à ces deux écueils.
Ils arrivent aussi à faire des personnages où on découvre les raisons de leur comportement au fur et à mesure, et les explications tiennent en fait. Par exemple, pourquoi le jeune homme, au début, il y a son grand-père qui lui dit « Mais t'as pas mis les chaussures que je t'avais achetées ?»« Non, papy, tu m'as jamais acheté de chaussures. »« Ah bon, je pensais pas. » Et en fait, on s'aperçoit pourquoi le gamin il dit à son grand-père qu'il n'a jamais acheté de chaussures. Parce que le grand-père, il est gâteux, quoi. Enfin, voilà. Et surtout, il s'est passé des choses qui fait que le petit-fils ne veut pas que le grand-père se souvienne qu'il lui a fait. Et donc, du coup, vous dites « Ouais, ok. » Là, ça fonctionne en fait.
Voilà.
Donc, parce que le personnage, il est aussi à tiroir.
Oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment envie de lire la suite. Enfin, voilà, c'est.
Elle arrive à faire du teasing. On a envie de savoir.
Tout à fait.
Même si c'est pas des histoires révolutionnaires, hein, faut pas non plus. C'est quand même super bien foutu.
Voilà.
Et il y a beaucoup d'amour pour l'humanité. Voilà.
Donc on en est déjà au tome 3 puisque c'était sorti au mois de mai et qu'on était passé à côté.
Oui, on a mis un peu de retard.
Voilà. Donc le tome 3 vient de sortir et le tome 4 est prévu pour novembre. En plus, ça sort assez rapidement. Donc c'est une série que vous devriez pouvoir compléter.
Voilà, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu différent, allez-y.
Voilà. Et surtout, effectivement, si vous avez l'impression d'avoir lu toujours la même chose à chaque fois que vous avez lu des mangas sur le sport, là, on échappe à ça. Voilà. On enchaîne sur le quatrième et dernier titre pour aujourd'hui.
Oui,
le plus intriguant.
Ouais, si je suis un peu partagé sur ce truc-là. Donc vous êtes beaucoup plus enthousiaste, en tout cas Tony, quand on en a parlé effectivement. Alors, l'île errante de Kenji Tsurata, qui sort aux éditions Kiun. De Kenji Tsurata chez Kiun. Alors, Kenji Tsurata, c'est un personnage, c'est un dessinateur assez bizarre. Il a publié très peu de choses, hein, surtout des sortes de récits uniques, de one-shot. Ces 15 dernières années, la première fois qu'il a été publié, c'était chez Casterman, il y a cela très 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 longtemps, au début des années 90, je crois au milieu des années 90. Et moi, je l'avais vraiment remarqué, effectivement, sur une BD qui était déjà un peu dans le même format, hein, on est toujours sur le même format, qui s'appelait Spirit of Wonder.
Oui, mais ça met vraiment bien en valeur les dessins. Hein.
Voilà. Et du coup, alors... comment dire, Kenji Tsurata, c'est un auteur qui aime bien la mécanique. Enfin, on a l'impression qu'il a une affinité un peu comme
Tezuka,
Miyazaki. On retrouve la même ambiance. Alors, on est vraiment dans une sorte de Porco Rosso. Il y a la mer, il y a des hydravions. Hein, il y a des hydravions partout. Il y a des mystères parce que du coup, effectivement, l'île errante, hein, qui est le titre. Le titre de cette série, c'est une mystérieuse île comme ça, qu'on a entendu parler, qu'on a vu surgir parfois, de temps en temps, de la brume, et qui circule comme ça dans le Pacifique, à l'ère moderne. Ou pas à l'ère moderne, parce qu'on est dans le monde de nos jours, ou dans un monde légèrement différent, on sait pas trop. C'est un peu steampunk en fait, on sait pas trop. Et du coup,
ça fait partie de cette atmosphère.
Et du coup, par contre, effectivement, ce qui différencie en fait Tsurata d'un Miyazaki, c'est son héroïne, est quand même un peu plus vieille, hein, et qui passe quand même une grosse partie de son temps dévêtue. En tout cas en bikini ou à prendre des douches, comme je disais. Alors que, fondamentalement, ça n'amène rien à l'action. ça n'amène rien à l'intrigue, donc voilà. Donc, en dehors de ça, et du coup, quand on regardait effectivement les critiques hein, sur ce personnage, sur cet auteur, ils disent voilà, il fait pas mal d'histoires avec des jeunes filles têtues et dévêtues. Voilà ce que je trouve. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a un peu gêné en fait dans la lecture parce que je me dis mais pourquoi il fait ça ? Voilà. Surtout qu'à côté, il y a une pure atmosphère. Je veux dire, encore une fois, c'est un manga. Où vous plongez en fait dans une ambiance, vous avez l'impression, mais comme dans Porco Rosso, d'être dans la mer Égée, avec une mer super bleue, avec un vent chaud qui souffle, des petits oies, des mouettes au loin, et vous êtes dans un hydravion et vous volez. Quoi. Enfin, il arrive au cours de, enfin, dans sa disposition de cases, dans ses plans, dans ce côté à la fois humain, parce que du coup, il a fait des plans super rapprochés sur des personnages, mais qui ont des gueules en fait.
Ouais. Et puis, en plus, je trouve qu'il a un style qui est très midiokian, qui est très très fluide, et il arrive à faire passer une foultitude d'émotions dans ses personnages par de doute, de conviction. Enfin, c'est
Je crois que ce qui marche, donc voilà. Donc, alors l'histoire quand même, parce que on tourne autour du pot là depuis tout à l'heure. Donc, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille hein, qui s'appelle Mikura Amelia, qui aime voler. Donc, comme son grand-père avant elle. Donc, du coup, elle est dans le Pacifique elle est entre les îles. Tout se passe bien jusqu'au jour où son grand-père meurt. Donc, elle hérite. Je dirais de l'affaire en fait de son grand-père, qui est une sorte d'aéropostale en fait. En plus, on a une tradition un peu la Saint-Exupéry. Enfin, c'est assez bizarre en fait. Et elle s'aperçoit que son grand-père est à la poursuite d'une île, donc qui s'appelle l'île électrique, l'île errante, donc qui est le titre de l'album. Et en fait, elle a un paquet à déposer dans cette île. Voilà, il y a une adresse, il faut qu'elle dépose. Du coup, elle va commencer à rechercher où est cette île, est-ce qu'elle existe vraiment. Donc, elle va entendre des légendes, des gamins, enfin des vieilles personnes qui ont vu cette île quand ils étaient jeunes. Enfin, elle va l'apercevoir cette île lors d'une tempête. Enfin, en fait, c'est aussi l'histoire d'une obsession. Parce qu'elle a déjà demandé, je ne sais pas combien ça va me prendre, mais cette putain d'île, je vais la retrouver, quoi. Et donc du coup, elle en arrive à négliger effectivement de travailler parce que du coup, elle est tout le temps à la recherche de cette île en fait. Et voilà, et au fur et à mesure, c'est une vraie enquête en fait, jusqu'à savoir putain où est cette île.
Et puis on sait qu'en gros cette île revient à peu près tous les trois ans et demi. On revient effectivement plus tard. Il y a même un passage assez étonnant parce que on rajoute une partie de surnaturel. Un moment où elle se rend compte que les instructions qu'elle pensait venir de son grand-père,
dans le fameux journal.
Dans le journal de son grand-père, elle trouve des inscriptions qui apparaissent après la mort de son grand-père. Donc elle ne sait pas qui les a remplies. Voilà. Et ça, effectivement, cet aspect surnaturel semble totalement.
Ça se glisse dans l'histoire.
Voilà.
Alors, je pense qu'il se fait aussi la puissance de Kenji Tsurata. Et là, on peut. Voilà, même si ce que je vous dis, son héroïne dévêtue, j'ai un peu de. Enfin, je vois pas pourquoi. Donc c'est sympa, mais.
Elle est propre, elle s'en prend souvent des douches.
Je trouve que c'est dommage que. J'aurais pu l'acheter pour un collégien, enfin pour un collège. Et en fait, avec cette histoire, je dis, mais non, ça. Voilà. Bref, passons.
Enfin, ça va, il n'y a pas.
C'est quand même bizarre.
Ouais.
Ça sert quand même à rien, quoi, quand même. Bref. Et je trouve que ce qui fait l'intérêt de cet auteur, on peut vraiment parler au niveau du dessin d'une sorte de maestria.
Ah oui,
voilà.
Ne serait-ce que la couverture, parce que tout son travail sur de peinture à l'aquarelle, comme tout ça, est waouh.
Et du coup, je pense qu'il dessine, que ce monsieur dessine tout simplement à l'encre de Chine, à la pointe. Et qu'on se retrouve sur des traits, même si c'est plus adouci, qu'on peut retrouver chez l'habitant de l'infini.
Ah ouais, c'est pas faux.
Et en fait, je pense qu'on plonge dedans parce qu'il fait ça comme si c'était super facile, alors que c'est l'un des styles de dessin les plus compliqués à faire. Et en fait, sa maîtrise Enfin, il y a quelque chose de, oui, d'encre de Chine. Il travaille par stri, en fait. Et ça, c'est quand même gigantesque. Voilà. Et du coup, voilà. Après, il y a une mise en scène. Il y a des grandes pages. Voilà. C'est et ça marche.
Il y a une forme de spontanéité effectivement dans ce dessin. Il y a des moments où, où certaines images, notamment sur les personnes âgées qui dessinent...
Il fait des gueules, en fait.
Voilà, il fait des gueules. Ça m'a un peu fait penser au travail de Jeff Lemire en comics,
tout à fait.
Qui a effectivement cette manière aussi de travailler avec des personnages qui sont esquissés plus que dessinés. De toute façon, on a clairement un style graphique qui n'est pas dans une logique... on n'est pas dans une logique manga, dans le sens où... Alors, elle a des grands yeux, effectivement, mais on n'est pas dans une iconographie manga. On est à la bordure de beaucoup de thèmes.
Et puis après, c'est vrai que par rapport au dessin, c'est vrai qu'on a des personnages qui sont avec un style qui est assez lâché sur les personnages. Il y a une spontanéité, on sent qu'il y a une énergie qui se dégage du dessin. Et avec quand même aussi des décors très travaillés. Et qui sont là aussi par rapport au, justement, comme tu disais, la technique ou à l'hydravion. C'est un pur bonheur de voir des hydravions aussi bien dessinés.
Donc, par contre, il est fort en hydravion, ça c'est clair. Hein,
on peut même en bateau, il y a quelque chose qui se déchaîne.
Et tout ça a l'air facile alors que ça ne l'est pas. C'est ça qui est quand même incroyable. Voilà. Donc, et puis, il y a l'impression d'être dans un film d'été. Il y a du hors-champ. C'est assez étonnant, enfin. Et on sent le temps qui passe, quoi. C'est assez étonnant. Voilà. Par contre, donc je rappellerai, c'est quand même 15 euros. Et on se dit, donc, c'est sympa.
Combien de numéros sont prévus ou...
Alors, combien de numéros sont prévus? Deux. Voilà. Après, voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, là-dessus, c'est qu'on est sur un genre.
Hybride,
on est à la croisée de tous les genres. C'est vrai que. Même dans la mise en page, on n'est pas du tout sur une mise en page qui fasse.
Alors après, il faut faire attention. Hein, je pense. Enfin,
on est sur un format atypique, volontairement.
Et puis surtout, Kenji Tsurata, étant donné le peu de dessins qu'il produit, je pense en fait qu'il ne travaille pas dans les gros magazines de manga, puisqu'en fait, même au Japon, en dehors de Shonen Jump, qui est la grosse écurie manga, il y a plein d'autres magazines qui existent, qui ne sont pas à la semaine, en fait, qui sont au mois, qui sont bimensuels. Et Tsurata, donc il doit faire autre chose à côté, hein, et du coup, il publie quand il a envie. Et ça, qu'on soit franco-belge, qu'on soit japonais,
c'est un sacré luxe.
Voilà, qu'on soit américain, et ben quand vous publiez, quand vous avez envie, parce que les gens vous attendent, vous approchez le dessin comme une liberté totale. Et du coup, vous affranchissez, je dirais, d'un formatage commercial. Et ça, quel que soit le pays où vous dessinez, en fait, il dessine pour lui, tout simplement. Oui. Voilà. Par contre, ça veut dire que oui, sa série, ça va mettre du temps à sortir. Par contre,
voilà. Après, effectivement, bon, globalement, hein, il a aussi fait pas mal dans les séries d'animation. Mais même la série de Spirit of Wonder, finalement, elle a fait que 5 épisodes de 30 minutes. Il a jamais été effectivement sur des projets de longue haleine. Voilà. En tout cas, ce premier tome est intéressant. Le deuxième tome n'est toujours pas. Je vois VO. Il y a deux tomes en VO en cours, donc ce ne sera pas forcément fini au deuxième. Voilà. Sachant que ce premier tome est sorti en 2010 au Japon.
Voilà, ça a mis un peu de temps
donc,
à venir.
Donc, en deux tomes entre 2010 et aujourd'hui.
C'est clair.
C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un rythme de production.
Très lent, limite voilà. Franco-belge.
Ouais, enfin, il y a des gens qui en franco-belge se sont virés pour faire un album tous les 8 ans. Hein.
Voilà.
Donc, voilà. Non, mais après, c'est une série hors norme par son format. Puisque c'est plus grand effectivement qu'un format normal.
Et bien en fait, Kiyun a gardé le format de Casterman de l'époque.
Voilà. Mais qui, à mon avis, était peut-être aussi le format d'origine dans lequel
ça se sent avec les dessins.
Voilà. On a quand même un nombre de planches doubles assez important. Des dessins d'avion, enfin, je pense que là-dessus, il y a de quoi en prendre plein les yeux pour les amateurs. Le petit point faible, j'ai envie de dire, c'est que ça se lit très vite, du coup, du fait de ses planches, et qu'à 15 euros, on se dit que c'est pas une lecture économique pour quelqu'un qui consommerait des mangas à tour de bras.
Mais après, bon, l'édition quand même assez luxueuse.
Voilà, tout à fait. Non, moi, d'accord.
Tout, bon.
C'est intéressant. Donc, c'était donc L'île errante de Kenji Tsurata, donc à 15 euros chez Kihun. Si vous êtes amateur de Jules Verne, si vous êtes amateur de Miyazaki, du studio Ghibli, si vous avez aimé les dessins à la mine à plomb, comme vous avez pu voir sur les habitants de l'infini, voilà, laissez-vous emporter par l'histoire de Amelia qui a la suite d'une île mystérieuse de nos jours au milieu de l'océan Pacifique, et île qu'elle pourchasse avec son hydravion au milieu des oiseaux et des baleines. Autre manga qu'on vous a présenté, le chant des souliers rouges, donc de Mizu Sahara chez Kaze Seinen, qui est à 8,29 €, qui est donc l'un des mangas à la structure narrative les plus intéressante qu'on ait vu depuis très longtemps, un personnage qui se découvre au fur et à mesure dans un univers entre le basket et le flamenco. Yes,
ça fait quand même un grand écart.
C'est le grand écart, effectivement. Mais la rose entre les dents, mon ami, la rose entre les dents. On vous a parlé aussi de Château Narumi de Tomomi Sato, qui paraît chez Komiku et qui coûte 8,50 €. C'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de reprendre un vignoble donc au Japon et d'en faire un château qui mériterait les plus grandes acclamations au monde. Ça va être compliqué. Et enfin, on a fini par Love Baka de Shushushu Sakurai. Comment gérer donc une jeune auteure de shoujo manga complètement fantasque quand vous êtes un auteur, enfin un éditeur venu de l'univers du shonen pur et dur. C'est a priori très compliqué.
Voilà. Donc, question rituelle, si tu ne devais en garder qu'un?
Les cholis sont rouges.
Voilà. Stéphane,
Je dirais l'île errante.
Voilà.
Et pourtant, j'ai quand même un petit fait pour Narumi, mais l'île errante, ouais.
Voilà. Et je pense que je rejoindrai Alain en misant sur le champ des souliers rouges. Voilà.
Il faudra attendre la fin, je pense. Ça se trouve, on se plante complètement, ça va partir en vrille.
Ouais, mais j'ai envie de te dire qu'il y aura au moins des personnages bien campés, même si on finit sur notre fin.